Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Bonjour à tous. L'accord de Paris vaut bien une nuit blanche. Prolongation à la COP25 qui devait se refermer hier soir. Précision à Madrid de Mathieu de Taillac. La réouverture partielle de l'usine Lubrizol à Rouen, entérinée hier par le préfet de Seine-Maritime, pose question, et pas seulement aux associations de défense de l'environnement. Argumentaire de la maire du Petit Quevilly dans cette édition. Service minimum, réquisition, y aura-t-il des trains à Noël? Le Premier ministre charge le PDG de la SNCF de plancher sur un dispositif, lequel appelle les grévistes à faire une pause. Précision de Sarah Ders. Également consacré à cette réforme des retraites, la bulle écho de ce samedi, signée Annabelle Grelier. Enfin, la lumineuse destinée de la musique gnawa, inscrite cette semaine au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Éclairage d'Anne Fauquemberg. Il s'agit à Madrid de faire monter le curseur de l'ambition, ou plutôt de ne pas le laisser stagner sous la ligne de flottaison. La phrase qui suit dit tout de ce qui se joue aujourd'hui à la tribune de la COP25. Si le texte est accepté en l'état, la coalition de la faible ambition aura gagné, Elle émane cette phrase d'un expert en négociation climatique. Venons-en à ce qui pourrait abîmer, sinon faire sombrer, l'accord de Paris, puisque cette grand-messe madrilène était censée parachever ce texte ambitieux. Mathieu de Taillac est sur place.
La présidente chilienne est critiquée dans les couloirs, trop faible et trop peu ambitieuse. Elle ne parvient visiblement pas à emmener les pays les plus récalcitrants vers un accord à la mesure de l'urgence climatique. Il y a trois grands sujets sur lesquels les pays peinent à trouver un consensus. Les ambitions, c'est-à-dire les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'article 6 du traité de Paris qui doit organiser un marché mondial du carbone, et les pertes et dommages, autrement dit l'aide aux territoires frappés par des catastrophes naturelles. Sur chaque chapitre, il y a les pays volontaristes et ceux qui traînent les pieds. Jennifer Morgan est la directrice générale de Greenpeace.
Le texte devrait déclarer l'urgence climatique et appeler à relever nos ambitions. Mais pendant que nous parlons, il y a toujours des pays comme l'Australie, le Brésil et l'Arabie Saoudite qui viennent ici avec l'intention de détruire l'accord de Paris. L'Union européenne a adopté un nouveau plan. Ses dirigeants devraient venir ici avec une nouvelle énergie et travailler avec les pays les plus vulnérables du monde pour parvenir à un accord qui leur permette de rentrer chez eux et de parler avec leurs enfants en gardant la tête haute.
En session plénière, les différents États ont encore affirmé leurs différences. Ce matin, tout ce que la COP résoudra ce week-end aplanirait le terrain de la prochaine conférence sur le climat, celle qui aura lieu l'an prochain à Glasgow.
Mathieu de Taillac à Madrid. Un tribunal de Khartoum vient de rendre son verdict à l'encontre de l'ex-président soudanais Omar el-Béchir, accusé de corruption. Est destitué le 11 avril dernier. Omar el-Béchir est condamné à 2 ans de résidence surveillée. Il encourait une peine de 10 ans d'emprisonnement. À ce chapitre, ce décret, publié ce matin par le Conseil souverain soudanais, qui acte la dissolution des syndicats mis en place sous l'ancien régime. Au Mali, le pouvoir a consulté et consulte encore ce qu'il est coutume de nommer la société civile. Société civile d'un pays meurtri par les attaques terroristes, 140 soldats tués et divisés, d'où les éléments de langage privilégiés par l'équipe du président Boubacar Keïta au service d'un dialogue national inclusif qui s'ouvre aujourd'hui à Bamako.
On donne l'autorisation à l'entreprise de redémarrer alors...
Incendie maîtrisé cette fois et on passe à l'actualité française. Incendie maîtrisé, risque de propagation écarté, mesure d'évaluation du risque chimique pour les populations réalisées. Une unité de l'entreprise Total a été la proie des flammes la nuit dernière à Gonfreville-l'Orcher en Seine-Maritime. Aucune victime. Gonfreville-l'Orcher, non loin du Havre, non loin de Rouen, pardon, une bonne heure de route de Rouen et de cette autre société endommagée par un incendie, Lubrizol. C'était il y a moins de 3 mois et pourtant hier, le préfet signait un arrêté de réouverture partielle malgré bien des zones d'ombre. Réouverture précipitée, préméditée et tout à fait dangereuse selon le collectif Robin des Bois. D'autres réserves émises cette fois par Charlotte Goujon, maire du Petit Quevilly, commune limitrophe de Rouen.
On donne l'autorisation à l'entreprise de redémarrer alors que tous les éléments de sécurité ne sont pas encore sûrs. Il était question, par exemple, du risque intrusion. Il y a eu un audit, mais quelles sont les préconisations de cet audit? Quand est-ce que les préconisations vont être mises en place? Et finalement, l'entreprise va démarrer ce risque intrusion. Pour l'instant, les préconisations n'ont pas été mises en œuvre. Depuis l'incendie, il est vrai que la préfecture et l'entreprise Lubrizol, en tout cas à mon encontre, sont plutôt présents en termes de communication pour expliquer la prise en charge, par exemple, des 1300 fûts qui sont délicats à manipuler. Sur la signature de l'arrêté, j'ai eu à la fois l'entreprise Lubrizol et la préfecture qui m'ont contacté pour me prévenir que l'arrêté était signé. Donc il est vrai que les autorités et l'entreprise sont plutôt présentes. Moi, ce que je leur ai demandé aussi à l'entreprise, notamment, c'est d'être présent auprès des habitants pour leur expliquer et leur faire comprendre ce qui s'est passé et leurs activités et être dans le dialogue pour que finalement toute la transparence soit effective.
Charlotte Goujon, maire du Petit Quevilly. Quand le Premier ministre demande à ce qu'on respecte, je cite, la légitime aspiration des Français à se retrouver en famille, quand Édouard Philippe en appelle au sens des responsabilités de l'ensemble des personnels des services publics, le président de la SNCF appelle, lui, les cheminots en grève à, je cite encore, faire une pause pendant les fêtes de fin d'année. Et les syndicats, jusqu'aux plus réformistes d'entre eux, ne cèdent rien à ces tentatives de culpabilisation. Sarah Ders.
Et oui, l'exécutif veut éviter l'embûche de Noël. La SNCF aussi. Hier, le patron de la compagnie ferroviaire a appelé les cheminots en grève contre la réforme des retraites à faire une pause pendant les fêtes. Jean-Pierre Farandou dans une vidéo interne à l'entreprise.
Je suis persuadé que le devoir d'une grande entreprise de service public est d'être au rendez-vous des attentes des Français. C'est pourquoi je m'adresse à tous les cheminots et aux organisations syndicales pour nous retrouver ensemble au service de tous les Français. Je demande à ceux qui sont dans le mouvement de réfléchir à faire une pause pendant les fêtes.
Pas sûr que le message soit entendu côté syndicat. Rémi Aufrère Privel de la CFDT Cheminots.
Il est en service commandé par le gouvernement. Nous considérons donc que le terme de trêve est très mal choisi, puisque chacun sait qu'on ne peut pas suspendre une grève pour la reprendre ensuite, sauf à accepter l'illégalité du respect du préavis de grève. L'objectif, ce n'est pas de gêner ce déplacement formidable et familial et convivial qui rapproche tous les Français, toutes les familles pour le 24 décembre. L'objectif, c'est que ces 8 à 9 jours qui nous restent nous servent à négocier et à faire revenir surtout le gouvernement à la table des négociations, parce qu'en l'occurrence, pour le moment, il s'en est éloigné.
Cette trêve pour Noël en pleine négociation, c'est une stratégie du gouvernement qui a deux objectifs, selon Jean-Marie Pernaud, chercheur à l'Institut de recherches économiques et sociales.
On peut le lire de deux manières. Soit c'est pour rendre service à la population qui vit des moments difficiles en période de fête, soit c'est pour casser le mouvement. Les syndicats hésitent à suspendre le mouvement, ne sachant pas s'ils pourront véritablement le reprendre en position de force à la rentrée. Il y a beaucoup d'indécisions de part et d'autre, hein. Il y a toujours de l'incertitude, plus exactement, dans la dynamique des mouvements. On est dans un bras de fer, effectivement, et chacun joue ses cartes. Et là, le gouvernement, en s'appuyant sur les fêtes, peut effectivement essayer de jouer une certaine sensibilité de l'opinion publique et puis de faire passer un peu au second plan ce que tout le monde a aperçu quand même comme une baisse probable de leur retraite. La décision de défier tous les syndicats, y compris ceux qui lui sont le plus proches, c'est sans doute avec l'idée qu'il pourra, dans un deuxième temps, isoler le mouvement, montrer les radicaux et essayer de diviser la population, comme il le fait d'ailleurs avec son projet.
Le mouvement devrait donc perturber les départs de Noël s'il se poursuit ces prochains jours, comme l'annonce la nouvelle journée de mobilisation de mardi. En moyenne, un TGV sur 4 circuleront demain.
Merci à vous, Sarah Ders. Et pour ne rien oublier des fondements et fondamentaux de cette réforme des retraites, nous vous proposons...
La bulle économique, Annabelle Grelier.
Une bulle éco qui pose la question suivante, ferons-nous mieux que nos voisins européens en la matière?
Le temps du système universel est venu, celui des régimes spéciaux s'achève.
Dans l'histoire de notre système social, une page se tourne. C'est du moins l'intention d'Édouard Philippe qui, dans son discours du 11 décembre, devant le Conseil économique, social et environnemental, annonce que la France, pour la première fois depuis 1945, va clore le chapitre écrit par le Conseil national de la Résistance. Le gouvernement Macron s'apprête en effet à mettre en place une réforme systémique pour un nouveau régime en compte notionnel, dit « régime à points ». Quelques pays en Europe ont choisi cette option. C'est le cas de la Suède et de l'Italie. L'Italie creuse tous les jours un peu plus son déficit, alors qu'un retraité sur trois y vit avec moins de 1000 euros par mois. Pour les détracteurs de cette réforme, notre système actuel est l'un des meilleurs au monde. Il peut certes être amélioré, mais il est aujourd'hui l'un des plus protecteurs d'Europe. C'est la position notamment de la CGT. Et le dernier rapport publié en novembre 2019 par l'OCDE ne lui donne pas tort. Le système des retraites en France se distingue en effet des autres pays développés par tout d'abord son taux de remplacement élevé, c'est-à-dire par la part conservée des revenus d'un salarié lorsqu'il part à la retraite, soit 74%. Ce taux de remplacement est de 65% en Italie, 48% en Allemagne ou encore 28% au Royaume-Uni. Enfin, l'âge légal de départ à la retraite en France est de 62 ans contre 65 et 7 mois en Allemagne ou encore 67 ans en Italie. La France est enfin l'un des pays où le taux de pauvreté de ses retraités est le plus faible. Mais c'est la Suède qui reste le modèle pour Emmanuel Macron. Pourtant, il aura fallu 10 à 15 ans de concertation en Suède pour mettre en place le nouveau système à points. Cela n'a pas été facile et de nombreuses fois le projet a été ajourné pour finir par être décidé à huis clos par un groupe d'experts et de représentants politiques. Loin d'avoir été décidé par un large consensus citoyen, la solution a finalement été trouvée sous la menace de la crise financière et de l'effondrement du système. 20 ans après, le bilan est mitigé. Selon Eurostat, 16% des Suédois de 65 ans et plus sont menacés par la pauvreté, malgré un minimum vieillesse versé à tous les habitants de plus de 65 ans d'environ 750 euros. La Suède a également adopté un âge pivot. Il est actuellement de 65 ans et doit passer à 67 ans en 2026. Plus vous partez tard, plus votre pension sera élevée, mais partir plus tôt vous condamne à une pension plus faible. Le fameux bonus-malus que veut instaurer le gouvernement Macron. La véritable faiblesse de ce système réside dans la valeur du point. Le montant des points cotisés tout au long de sa carrière peut évoluer en fonction des résultats économiques du pays. Il a baissé à trois reprises, 2010, 2011 et 2014. En Suède, contrairement au projet français, le système général à points est accompagné de deux autres volets. D'une part, 2,5% du salaire annuel peut être investi au choix auprès de l'État ou dans des fonds privés. De l'autre, une forme de retraite complémentaire est négociée par les syndicats, selon les branches, et permet en partie de compenser la faiblesse du régime général. Ce qui laisse craindre aux opposants de la réforme en France que notre système pourrait petit à petit glisser vers un régime par capitalisation. Depuis la mise en place de ce système notionnel, le sujet continue de diviser la population suédoise. Les puissantes organisations de retraités du pays réclament non seulement le retrait de la disposition qui permet de baisser la valeur du point, mais également l'indexation sur les salaires et non sur l'inflation. Il y a 20 ans, le système avait été imaginé pour assurer un taux de remplacement d'environ 60% du dernier salaire, soit le même taux qu'offrait l'ancien système. Aujourd'hui, ce taux a chuté à 45%. Malgré tout, le système suédois reste une source d'inspiration pour le gouvernement Macron, qui ambitionne d'engommer les défauts.
La loi prévoira une règle d'or pour que la valeur des points acquis ne puisse pas baisser.
Le Premier ministre a beau assurer également que les femmes seront les grandes gagnantes du système universel des retraites grâce à de nouveaux droits de la famille, de nombreux experts doutent encore que cette réforme soit un bon choix pour notre pays. Un pays qui, rappelons-le, ne connaît pas comme l'Europe du Nord le plein emploi, mais un taux de chômage encore élevé et notamment des seniors, avec une politique de formation encore très faible qui ne permet pas de véritable reconversion des salariés.
Refermons cette édition avec la musique gnawa, inscrite cette semaine au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Musique qui évoque à la fois un style musical au Maroc, mais aussi les descendants d'esclaves rassemblés dans des confréries musulmanes mystiques. Elle nourrit aujourd'hui cette musique une scène flamboyante, alors qu'une vingtaine d'années, il y a une vingtaine d'années, elle était peu connue, voire marginalisée. Anne Fauquemberg.
Ils sont environ 70, ces Maalem, ces maîtres qui font vivre les confréries des Gnawa et qui transmettent leur art musical. Ils ne sont donc pas si nombreux, explique la productrice du Festival des Sawira, Naila Tazi. Festival dédié à cet art mystique, aujourd'hui internationalement reconnu, ce qui était loin d'être le cas il y a 20 ans lors des premières éditions de l'événement, se rappelle-t-elle.
C'était une culture minoritaire, c'était une culture dans la marge. Il faut savoir que les Gnawa, bon, ils n'avaient pas de statut d'artiste, ils jouaient dans les rues. Généralement, il y avait une petite partie d'initiés au Maroc qui les invitaient chez eux et qui pratiquaient le rituel dans les maisons, dans les domiciles. Mais généralement, pour la partie populaire, on les voyait généralement dans la rue.
Aujourd'hui, l'art gnawa est dynamique, tant sur le plan rituel que sur celui de la scène. De partout dans le monde, les plus grands artistes viennent se frotter aux motifs rythmiques complexes de cette tradition. Comme en 2018, les Américains du groupe de jazz Snarky Puppy, avec le grand maître Hamid El Kassri, que nous entendions déjà depuis le début de ce reportage. Ces confréries sont aujourd'hui incontournables au Maroc et elles jouent même un rôle sociétal, selon Jean Pouchelon, ethnomusicologue et auteur des Gnawa du Maroc, intercesseur de la différence chez De La Tour.
Les Gnawa, comme ils viennent d'un ailleurs, du Soudan, entendu comme l'Afrique noire, c'est-à-dire du Soudan en arabe, ils apportent des éléments étrangers qui vont intégrer aux éléments marocains. Cette faculté de réconcilier les imaginaires antagonistes, d'intercéder dans la différence, je pense que cette faculté-là n'en sera que plus accrue grâce à l'ouverture des Gnawa aux musiques du Maroc et du monde.
Les puristes marocains du genre musical restent toutefois attentifs, craignant une dénaturation du style.
Merci à vous Anne Fauquemberg. Quelques mots de la météo de l'après-midi. Temps perturbé sur la moitié sud, des inondations dans le sud-ouest et dans les régions de l'est, mais une Méditerranée que l'on dit épargnée par ces intempéries. Ce journal a été préparé avec M. Le Chili à la technique, Marie-Claire ou Mabadi.